Le studio LAD et Edantique sont fiers de vous présenter Le Monde à l'Ambert. Et si on éclairait vos flux ?
Bonjour, bienvenue dans Le Monde à l'Ambert, l'émission de Supply Chain Village qui ambitionne de rapprocher le monde politique du monde de la logistique. Dans cette période de crise sanitaire Covid-19, la logistique, elle est mise en avant, elle est aussi en questionnement. Donc, nous accueillons aujourd'hui Yann de Ferraudy, président de LASLOG. Bonjour Yann.
Bonjour.
Yann Ferraudy, vous êtes aussi directeur général adjoint du groupe Rocher et vous avez un parcours depuis de nombreuses années dans différentes responsabilités autour de la supply chain, sur l'organisation des systèmes. C'est ce que nous recherchons ce jour dans notre rendez-vous. Nous voulons donc d'abord comprendre votre propre parcours, la situation du groupe Yves Rocher dans cette crise. Et puis nous aborderons, mais qu'est-ce que c'est une supply chain? Qu'est-ce que c'est de la logistique? Comment les politiques doivent mieux percevoir que ça démarre dans les champs ou dans les matières premières et je dirais jusqu'à la distribution finale et voire même parfois la récupération, que ce n'est pas juste du stockage et du transport. C'est peut-être le sujet que nous voulons vraiment voir aborder avec vous aujourd'hui, Yann. Mais d'abord, une présentation personnelle et celle du groupe.
Eh bien, bonjour. Donc, effectivement, j'ai, comme vous le disiez, j'ai un parcours, c'est vrai, assez large. Donc, pour ce qui concerne mes responsabilités au sein du groupe Rocher, eh bien, j'ai en charge les opérations et l'IT. Donc, c'est d'un côté la partie achat. Ah, la partie donc système d'information. Le groupe Rocher, alors on connaît la marque emblématique Yves Rocher, qui est une des 10 marques cosmétiques du groupe. L'activité du groupe, on peut la résumer comme ça, il y a une dizaine de marques, il y a une activité cosmétique qui est très prononcée, il y a une deuxième filière qui est la filière textile avec une marque emblématique qui est Petit Bateau, et puis il y a l'entretien de la maison. C'est une production cosmétique qui est ultra majoritairement en France, 85%, dont essentiellement tout est fabriqué d'ailleurs en Bretagne. Et puis, si on parle de la situation actuelle, on a forcément énormément d'impact, c'est-à-dire que sur le créneau qui représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires, on a 95% de nos chaînes de magasins qui sont fermées aujourd'hui dans le monde, que l'on parle de la Russie, aux États-Unis, en France, Belgique, Espagne, Italie. Voilà. On commence à rouvrir en Autriche, on commence à rouvrir en Allemagne, mais voilà, il n'y a guère que les chaînes nordiques hein, en Suède et en Finlande qui n'ont pas fermé.
Donc, votre expérience de groupe est très intéressante puisque vous venez d'expliciter déjà la production est nationale en grande partie. On entend dans les médias beaucoup, que ce soit des politiques, des citoyens, même des entreprises dire il faut relocaliser, il faut remettre de l'économie dans notre territoire. Mais le président de LASLOG, qu'est-ce que ça veut dire en termes de système organisationnel? Qu'est-ce que ça nécessite comme mode de pensée, peut-être de transformation, notamment des politiques, pour comprendre ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour réussir à réindustrialiser cette France? Voilà des éléments que nous attendons dans cette émission Le Monde à l'Ambert.
Ouais. Alors, moi, j'ai pris soin depuis plusieurs semaines, enfin depuis que je suis président de LASLOG au mois de janvier dernier, d'essayer de poser un petit peu des définitions parce qu'elles me semblent très importantes pour mieux comprendre ce que l'on fait. Donc, il se trouve que j'ai démarré ma carrière dans un petit cabinet de conseil que certains connaissent encore, qui s'appelle Diagma Consultant, et j'étais responsable de l'optimisation des tournées. Donc, j'étais très axé transport. Et donc, le transport, c'est un des maillons hein, d'une supply chain. Si on y ajoute le métier d'entreposage, qui est le métier d'entreposage et qui est vraiment, en anglais, on appelle ça du warehousing, mais il y a plus que le stockage, il y a la préparation de commandes, il y a la réception des biens, il y a quelquefois du co-packing, il y a tout un tas de services à valeur ajoutée et surtout des process à l'intérieur de cette boîte généralement assez paralépipédique qui est un entrepôt. Et pour moi, l'entrepôt, d'ailleurs, c'est le parallèle d'une usine. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment immobilier et on a des process à l'intérieur et des gens qui pilotent les process de ces outils. Bien. Et donc, lorsque on a vu dans historiquement, en fait, hein, certains transporteurs devenir logisticiens, c'est en général parce que ils se sont adjoints des capacités d'entreposage, soit pour faciliter les flux, soit pour être capables d'avoir un meilleur service pour leurs clients. Et donc, le mot logistique, pour moi, il est très attaché à la combinaison entre des outils de stockage et de préparation et des moyens de transport. Lorsque l'on parle de supply chain, pour moi, on va tout de suite passer dans une logique de flux. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut peser sur les enjeux d'une supply chain, eh bien, il faut avoir ce qu'on appelle la planification. Alors, dans des sociétés industrielles, on a bien sûr la main à ce moment-là sur la planification de l'outil industriel, ce qu'il va produire parce qu'il se confronte à une demande d'un côté, donc de la prévision, puis ensuite de la planification de la production en vue de réguler le montant de stock qui va être nécessaire à la consommation, puisque bien souvent, les rythmes de consommation ne sont pas les mêmes que les rythmes de fabrication. Hein. Si on prend un marché qui est le mien, notamment dans la cosmétique, on a sur les mois de novembre et décembre, en général, à peu près 25% du chiffre d'affaires d'une année sur deux mois. Donc, c'est tellement mal réparti, finalement, puisque ben voilà, Noël, le Black Friday maintenant, etc., ben c'est en fin d'année. Et donc, on est amené à constituer des stocks en avance parce que nous n'avons pas les moyens et nous ne faisons pas un dimensionnement de l'outil industriel à hauteur de cette pointe. Et c'est ça qui engendre, en fait, en général, des stocks, c'est cette espèce de désynchronisation entre le rythme de consommation d'un côté et le rythme de fabrication ou d'approvisionnement. Voilà. Et donc, moi, pour ce qui me concerne aux opérations, en fait, je m'occupe non seulement de cette partie de planification, mais aussi de la fabrication et même des achats, c'est-à-dire pour ce qui est de ce que l'on ne fabrique pas, soit en termes de produits, soit en termes de biens et de services, en fait, d'avoir une stratégie d'acquisition, de partenariat avec l'écosystème de fournisseurs, etc. Et donc, d'avoir toute cette chaîne qui, bien sûr, alors c'est vrai que c'est pas que ce soit pratique, mais je pense que c'est efficace en ce qui me concerne. Et je vois que chez des confrères comme chez L'Oréal, l'organisation est la même. C'est-à-dire qu'il y a aussi le système d'information qui m'est rattaché parce que le système d'information est excessivement important, non seulement pour faire des affaires, mais aussi pour acquérir des commandes, être en relation avec les clients, mais pour opérer et optimiser toute cette chaîne, ce flux en fait de marchandises qui arrive non transformée, qui est transformée et puis qui est distribuée. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un élément là de compréhension hein, par rapport à votre question qui est que si on regarde non plus, on va dire, le transport, encore que les transports soient très internationalisés, ni même seulement la partie d'entreposage et de préparation de commandes qui, lui, est assez géographique puisqu'il faut bien localiser des points généralement plutôt proches des bassins de consommation. Cette logique de flux fait qu'il faut aussi se poser des questions. Lorsque l'on est finalement un dirigeant alors, d'entreprise, mais aussi un responsable politique, en quoi est-ce que le territoire va être attractif ou pas dans ces logiques de flux ? Est-ce que je suis plutôt un lieu de consommation ou est-ce que je suis un lieu de transit qu'on vient traverser ou est-ce que je désire être un lieu dans lequel on va fabriquer, donner de la valeur ajoutée et de transformation. Est-ce que j'ai aussi des ressources dont je peux faire bénéficier un petit peu le reste du monde? Et quels sont les paramètres qui permettent de se rendre efficace? Et alors, j'ai révisé mes classiques avant de participer à cette émission. J'ai lu le super article que vous avez fait et qui est paru ce matin. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça fait moi-même, je dirais, 3-4 jours que je me pose ces questions autour d'un gros mot hein, qui fait un peu gaulien, mais depuis ce week-end, en fait, où j'ai vu une interview de Agora Dirigeant de Luc Ferry, où on parle de stratégie industrielle d'un État. Et je pense qu'il n'y a pas de supply chain, il n'y a pas de stratégie supply chain en tant que telle. Cette stratégie de supply chain, elle ne peut être, à partir du moment où on comprend un petit peu ces étapes, que dans le cadre d'une stratégie plus vaste industrielle. Si je n'ai pas d'industrie sur mon territoire, je vais être obligé de faire venir les choses de très très loin, de peut-être plus près, puis de plus en plus loin le cas échéant. Mais en tout cas, je vais avoir des vecteurs logistiques pour le coup, de transport, d'approvisionnement, qui vont faire que mes biens arrivent. Si au contraire j'ai de la transformation industrielle, j'ai un réseau industriel, ce qui est quand même aussi beaucoup le cas de nos camarades allemands notamment, avec un réseau industriel de PME et de qui est assez dense, eh bien j'ai un outil logistique qui va être aussi très développé parce que il y a ce maillage à assurer. Nous, on est assez différents, hein, quand même, d'un point de vue global.
Merci sur cette approche. Hein. Il y a des mots forts que vous venez de rappeler. Hein. C'est que la logistique est en support de projets de territoire, de projets nationaux. Je voudrais tout à la fois, Laslog est membre de France Stratégie qui a été lancée. France Logistique, merci, et de France Logistique qui a été lancée en janvier. Vous avez parlé de système d'information. Comment vous voyez un peu ce rôle vis-à-vis de ceux qui gouvernent, de ceux qui aspirent à gouverner, des politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour qu'ils comprennent que la logistique, certes, c'est peut-être une filière économique en soi, parce qu'on arrive à la définir, mais c'est surtout un support, comme vous l'avez dit, d'une politique, d'une stratégie, par exemple, industrielle et de souveraineté.
Alors, moi, le sens de notre participation à aujourd'hui dans France Logistique, c'est justement parce que au titre des personnes et des entreprises, hein, qui sont représentées à la SLOG, et il y a plus de 300 entreprises, il y a quelques 4000 personnes qui sont individuellement inscrites à la SLOG. Il y a de très belles entreprises, hein. Je citais L'Oréal tout à l'heure, il y a Schneider Electric, il y a Rexel, il y a Renault, il y a Michelin, il y a quand même LVMH, Vuitton, il y a quand même des fleurons de cette industrie qui sont représentés. Et moi, je souhaitais être actif dans France Logistique pour contribuer justement à une meilleure compréhension, non pas des enjeux logistiques au sens transport et entreposage, mais des enjeux de supply chain et de flux qui sont vraiment nos sujets au sein de la SLOG, pour aider à cette compréhension de cette logique de flux. Parce que je pense que si on ne regarde pas ça, je pense qu'il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à percevoir. Notamment que les gens et les personnes qui nous entourent à la SLOG sont ces personnes qui sont responsables de dire bah, l'entrepôt, je vais le mettre là ou je vais le mettre là, l'usine, je vais la mettre là ou je vais la mettre là, mes flux de marchandises finis, je vais les positionner comme ceci, les approvisionnements, je vais les mettre comme cela, etc. Donc, on est en face de gens qui décident, en fait, avec leur patron, leurs actionnaires, leur comex, etc., de ces logiques de flux. Et ça me semblait très intéressant de participer à cela. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en fait, ce que engendre un petit peu cette crise, c'est elle fait des effets de loupe sur des choses qui marchaient déjà pas très bien et qui sont amenées, à mon avis, à souffrir, et des choses qui marchaient plutôt bien et qui sont en train de se développer. Choses qui marchaient bien et qui sont en train de se développer très fortement, par exemple, ce sont les flux d'e-commerce. Nous avons remarqué que en France, c'est à peu près 200% que l'on fait en ce moment en termes de flux e-commerce pour la marque Rocher. C'est 100% sur l'Europe. C'est pour la marque Petit Bateau des volumes qui sont envolés de 2 à 3 fois. C'est extrêmement impressionnant. Et si on regarde un peu à l'est, en Chine, on voit que cette logique-là a été s'applique et que le passage du virus a profondément transformé structurellement la manière dont les biens sont acquis aujourd'hui. Et donc, je souhaite porter cette voix, moi, au sein de France Logistique, alors qu'en ce moment, des choses qui souffrent, c'est les transports. Ça, c'est très clair. On voit bien que ce sont des métiers qui, depuis des années, ont des marges très faibles et que là, il y avait des tensions avant la crise Covid qui étaient sur les moyens de transport, sur trouver des chauffeurs qui étaient en pénurie. Et c'est le cas aussi aux États-Unis, par exemple, où c'était très patent avec une inflation des prix aux États-Unis très forte parce que il fallait trouver des chauffeurs et qu'il y avait des gens qui revenaient sur le marché des conducteurs de véhicules parce que les prix s'ajustaient, notamment de leur salaire, qui était bien sûr rebasculé sur les clients. Moi, je pense que ça aura échappé à personne dans le communiqué de presse qui est issu de France Logistique de cette semaine, où on voit que il y avait là une demande aussi des instances gouvernementales de moyens qui relèvent plus du court terme que du structurel et de la stratégie. Alors, on doit se positionner dans les jours et semaines qui viennent aussi sur des recommandations plus structurelles, mais je pense que effectivement c'est très important parce que ce serait dommage de se limiter à effectivement des revendications, des demandes qui sont liées aux souffrances et aux difficultés du court terme par rapport aux enjeux qui sont devant nous, sachant que alors là, c'est beaucoup la SLOG qui parle et beaucoup Yann de Ferrodi, directeur général adjoint des opérations du groupe Rocher. Moi, je pense que nous allons devant des difficultés économiques importantes. C'est rien de le dire quand notre dette aura dépassé très largement les 104% actuels et que nous serons quand même handicapés par cette situation. Le gouvernement fait des choses extraordinaires, je trouve, pour maintenir, c'est des moyens fantastiques, énormes, de la France et de l'Europe mise à disposition des entreprises parce qu'il faut soutenir ce tissu économique. Cela étant, nous ne sommes pas dans une économie post-guerre. Voyez, c'est-à-dire qu'on a, le président a utilisé le terme de guerre, ses ministres derrière sont repartis sur la même thématique. Ce n'est pas ça du tout quand même. Nos infrastructures sont en parfait état. Notre outil industriel est en parfait état, notre outil logistique est en parfait état. Donc, il y a les moyens d'une relance tout autre. En revanche, j'ai envie de dire que la crise qui est devant nous, c'est la crise climatique sur laquelle, là, il n'y aura pas de retour. Lorsque les mers auront monté de 20, 30, 40, 1 mètre, elles y seront pour un moment. Hein. Donc, et là, il y aura des destructions d'infrastructures. Là, il y aura des destructions de moyens productifs et il y aura des problèmes sensiblement encore plus graves que ceux qui nous attendent là dans les mois et semaines qui viennent. Même si, de façon très réaliste, ça va être difficile. Ça va même être très difficile pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, parce que je pense aussi que quand les entreprises souffrent, quand l'économie souffre, il y a aussi de la crise sociale, il y a aussi des difficultés de ce genre auxquelles il va bien falloir parer.
Merci Yann. On a dépassé largement le temps habituel de cette émission, mais ça glisse tout seul. Vos propos nous sont très, très intéressants, tout à la fois sur la situation, mais sur les enjeux qui sont devant nous, rappelant que d'autres crises vont advenir très probablement, notamment la crise climatique. Mais moi, je reviens sur ce qu'est cette émission, quelle est la place, le rôle des acteurs dans la supply chain, qu'est-ce que les politiques doivent mieux percevoir. Je reviens toujours à ma définition que vous avez d'une manière ou d'une autre reprise, hein, la logistique ou la supply chain, c'est le pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'informations. Il nous faut des informations de qualité pour les partager entre tous et permettre d'apporter des réponses, soit dans l'urgence, soit dans une souveraineté. Comme vous l'avez dit, eh bien, il va bien falloir partager des informations pour partager nos flux qui soit physique et des flux financiers parce qu'on est dans une économie de marché. Et demain, savoir anticiper, vous avez dit, le risque de destruction d'outils de production ou d'infrastructures si le changement climatique s'emballe avec les montées des eaux, par exemple, eh bien, c'est encore de l'information qui viendra et la logistique reste un outil de souveraineté. Peut-être l'élément à retenir pour les politiques qui regardent l'émission, pour tout le monde d'ailleurs, l'émission Le Monde à l'envers de Supply Chain Filage est pour aujourd'hui finie. Je vous dis à très bientôt et à remercier encore et encore toutes celles et tous ceux qui, tous les jours, se lèvent dans des conditions difficiles et qui nous permettent d'avoir, nous qui sommes chez nous et qui devons rester dans nos foyers, une vie confortable grâce à tous ceux qui servent notre quotidien ou qui viennent soutenir les hospitaliers, ceux qui sauvent des vies en ce moment. Merci.
Merci beaucoup.
Le studio LED et Edentic vous ont présenté Le Monde à l'envers. Et si on éclairait vos flux ?